Ce soir, bonsoir à toutes et à tous, je veux vous parler de la gravité de la situation. Nous sommes face à cet embrasement, face au massacre et aux horreurs de la guerre, face au désastre de l'Union européenne qui n'a ni cœur ni âme, face au chaos politique, face au chaos économique, tous sous la dérive financière, face à un Occident qui, malgré cela, affirme avec arrogance sa supériorité morale et s'enivre de son récit. Nous sommes aussi face à la lâcheté satisfaite de nos femmes et de nos hommes politiques qui s'expriment dans les petits débats de l'Assemblée nationale. Alors, on pourrait désespérer, mais non, car le premier acte humain dans la tempête, c'est toujours de ne pas désespérer, de sortir d'un pessimisme qui devient une zone confortable, de ne pas s'abstenir non plus et de ne pas sombrer dans la haine destructrice. C'est d'abord une question d'état d'esprit et aussi de maîtrise de ses émotions les plus profondes. Je vais vous citer, pour commencer, deux fragments de poèmes qui évoquent cet état d'esprit, car face aux grands risques, la poésie parle souvent mieux que la parole politique. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. C'est le poème d'Aragon sur le groupe Manoukian, le groupe qu'il cite dans le roman Inachevé, mis en musique par Léo Ferré plus tard, en 1959, sous le titre de l'Affiche rouge. Et voilà les 5 vers que je veux vous citer. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Nous sommes aujourd'hui aussi fin février. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui nous vont survivre, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Voilà l'état d'esprit auquel on doit se trouver aujourd'hui, sans haine, mais déterminé jusqu'au bout. Je veux maintenant vous citer le 15e couplet de notre Marseillaise, peu souvent cité, et qui dit « Enfant, que l'honneur, la patrie fasse l'objet de tous nos voeux, ayons toujours l'âme nourrie des feux qu'ils inspirent tous deux, des feux qu'ils inspirent tous deux. Soyons unis, tout est possible. Nos villes ennemies tomberont alors que les Français cesseront de chanter ce refrain terrible. » Eh bien, c'est à cela qu'il faut parvenir, à cet état d'esprit, pour que le refrain ne soit plus celui de la guerre et de la destruction économique, mais celui de la paix et du développement mutuel. La poésie, oui, car elle nous incite à prendre parti pour cette paix et pour ce développement mutuel. Elle crée en nous cette capacité, qui est le propre de l'homme, de recevoir tout autre être humain avec un beau visage. Alors, on note ce qu'elle découvre et de l'espérance qu'elle soulève, cette poésie. Examinons la terrible réalité. Je veux me borner ce soir à deux grandes nouvelles. La première, le journaliste-enquêteur américain Seymour Hersh vient d'apporter des éléments probants sur la responsabilité des États-Unis et de la Norvège, et de la Suède et du Danemark, dans le sabotage des deux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. En ce moment même, notre institut Scheler tient une conférence internationale sur la nécessité de procéder à une enquête sur ce qui s'est réellement passé. Et souvent, ceux qui participent à cette conférence s'exprimeront avec véhémence. Mais il faut comprendre leur véhémence. Face à ce qui a été un véritable acte de guerre, ce sabotage a été un acte de guerre. La Russie a soulevé la nécessité d'une enquête au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il ne lui a été porté que des réponses cyniques ou dilatoires par le représentant américain cynique, dilatoire par les autres. Or, c'est un acte de guerre contre la Russie, mais pas seulement contre la Russie. Ce pipeline est en russe, mais aussi l'Allemagne et nous-mêmes. La France, une société française, avait une part dans ce pipeline, Engie, qui avait investi 1 milliard. Donc, nous sommes victimes d'un acte de guerre et nous n'avons pratiquement rien fait. Rien. J'ai exigé moi-même qu'un débat se tienne au Parlement français, que nous procédions à une enquête plus sérieuse. Peu de réponses, car on ne veut pas s'engager. Le deuxième événement, c'est le président Poutine qui a annoncé que la Russie suspendait sa participation au traité de New Start, qui avait été signé dans les conditions actuelles en 2010 avec Barack Obama, président des États-Unis. C'est le seul traité qui restait de la guerre froide, le seul visant à stabiliser la situation militaire. Le seul parmi 5. Alors, on peut comprendre la position du président Poutine, du président de la Fédération de Russie. On a vu l'extension de l'OTAN aux frontières de la Russie, à l'encontre des promesses occidentales lors de la chute du mur de Berlin. Roland Dumas me l'a confirmé personnellement. Genscher, le ministre allemand, nous l'a confirmé aussi, l'a confirmé à mes amis allemands. Et Baker, l'américain, l'a également confirmé. Donc, vis-à-vis de la Russie, on n'a pas tenu les promesses, comme on n'a pas tenu les promesses de l'accord de Minsk, comme l'ont confirmé Angela Merkel et François Hollande, l'accord de Minsk de 2014, qui devait stabiliser la situation en Ukraine. Et on a laissé courir pour que l'Ukraine puisse s'armer. Et s'armer contre qui? Eh bien, contre la Russie. On comprend donc la réaction de la Russie, pas seulement du président Poutine. Il y a eu les attaques, il y a quelques semaines, contre les installations russes de la part de l'Ukraine, avec le soutien évident du renseignement et des réseaux cyber, numériques et satellitaires américains. Il y a eu l'impossibilité pour l'inspecteur russe de vérifier tous les sites américains, notamment la dénucléarisation d'une partie de la flotte aérienne des B-52 américains et des missiles balistiques sous-marins de type Ohio. C'est la fin de la suspension de cette adhésion au traité Stark que le président Poutine a annoncé à la fin de son discours sur l'état de la Fédération de Russie, c'était le 21 février, notez bien la date, après avoir dénoncé la dégénérescence occidentale des pays occidentaux et leur guerre hybride totale menée contre la Russie, notamment par les États-Unis. On comprend que dans ce contexte, il est exigé que dans les négociations futures, les armes nucléaires de la Grande-Bretagne et de la France soient prises en compte dans un nouveau traité. Le nouveau START serait donc multilatéral, alors que l'actuel START est bilatéral entre seulement la Russie et les États-Unis. Donc Londres et Paris faisant partie de l'OTAN, Poutine dit Londres, Paris et Washington sont un tout, donc ils vont être, toutes les armes des trois doivent être incluses, contrairement au premier traité où il n'y avait que les États-Unis. Je ne vous cacherai pas que cela me déplaît. Mais notre appartenance au commandement intégré de l'OTAN, décidé par Nicolas Sarkozy, en même temps qu'il a décidé l'intervention en Libye, avec une OTAN devenue globale depuis la conférence de Madrid qui s'est tenue fin juin, cela justifie la position de la Russie. On peut l'aimer ou pas, mais cela la justifie. Car il constate que la France, ayant adhéré totalement à l'OTAN, a perdu sa souveraineté. D'où la table longue qu'on a pu voir dès le départ entre Poutine et Macron lorsque ce dernier est allé à Moscou. Cette ONU devrait être la base, l'ONU dont on dispose devrait être la base de négociation, et pas l'OTAN. L'OTAN n'a plus de raison d'être. Il faut donc pratiquer la politique de la siège vide, de la chaise vide au sein de l'OTAN, et en même temps demander sa dissolution, car elle n'a plus de raison d'être. À noter ici que Poutine n'a fait que suspendre la participation de la Russie au nouveau traité START, au New START, et que le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a annoncé que son pays s'en tiendrait aux limites de l'armement fixé par le traité et continuerait ses échanges sur le nombre de têtes nucléaires et de lanceurs pour aussi longtemps que le traité restera en vigueur. La Russie continuera à échanger les notifications sur ses ICBM, les missiles de longue portée, et les SLBM, les stratégiques, avec les États-Unis, conformément aux accords signés en 1988. Le président de la Fédération de Russie est donc en train de dire, en termes un peu simples, « Messieurs les Occidentaux, à vous de jouer franc jeu, et nous pourrons négocier. » Voyons de l'autre côté ce qu'ont dit ou fait les dirigeants occidentaux depuis ces derniers jours, en gardant à l'esprit que le discours de Poutine date du 21 février. D'abord, Victoria Nuland, le 16 février, à l'offre, à l'opposé de ce qu'avait dit le 15 son supérieur hiérarchique direct, Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Blinken avait dit, le 15 février, qu'une tentative de l'Ukraine pour reprendre la Crimée serait franchir une ligne rouge. Eh bien, Victoria Nuland ne s'est pas gênée. Un jour après, la déclaration de Blinken étant du 15, le 16, Victoria Nuland déclare Carnegie Endowment for Peace, dans une organisation pour la paix, elle a dit « Les cibles en Crimée sont pour l'Ukraine des cibles légitimes et nous soutenons les tirs qu'elle fera contre elle. » Donc là, la question de la Crimée se trouve directement sur la table du fait des dirigeants occidentaux. Ensuite, eh bien, on voit s'exprimer Kamala Harris, la vice-présidente américaine, les 16 et 17 février à la conférence de Munich, la conférence de sécurité de Munich. Elle dit que l'administration Biden doit et va et charge la Russie et accuse la Russie de crimes contre l'humanité en Ukraine. 16-17 février, Munich. Et puis, Liz Truss, la fameuse Liz Truss, qui est qui a été Premier ministre peu longtemps dû à son incompétence, la fameuse Liz Truss, avec Boris Johnson, au Parlement anglais, nous dit le 20 septembre, le 20 février, pardon, nous dit le 20 février, qu'il faut donner des avions à l'Ukraine. Donc, on est sur tous les va-t-en-guerre, la position de tous les va-t-en-guerre. Je rappelle que Liz Truss s'était exclamée lorsqu'elle a appris le sabotage de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, elle s'était exclamée dans une lettre adressée, dans un message adressé à Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères américain, elle lui avait dit « c'est fait ». Elle l'avait dit instantanément « we did it ». Donc, c'est clairement exprimé de ce point de vue par les dirigeants occidentaux qu'ils sont des va-t-en-guerre. Liz Truss est un cas un peu extrême, car elle n'est pas très futée, mais elle a exprimé tout haut, ce que je pense tout bas. D'ailleurs, Le président des États-Unis, Joe Biden, l'avait dit lui-même à Olaf Scholz, qui était resté quoi? Que les États-Unis avaient tous les moyens d'arrêter Nord Stream. Il l'avait dit avant même que les Russes pratiquent leur opération spéciale, leur invasion de la Crimée. De l'Ukraine. Alors, tout cela a un côté tragiquement farce en même temps. Vous avez vu que Joe Biden est allé à Kiev, où il a défilé bras dessus, bras dessous, avec Volodymyr Zelensky. Alors, on se dit, quel courage, on a fait tout un théâtre là-dessus, dans les presses occidentales. Or, aujourd'hui, on apprend, par Jake Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité nationale de Biden, que les Russes avaient été avertis. Donc, voilà que tout ce théâtre, de cet acte de courage, de dirigeant du monde libre, on avait averti les Russes qu'il se déroulerait. Donc, on voit bien qu'il y a des négociations sous la table, et ce qu'on vous dit, ce que nous déversent les médias occidentaux, les médias français en particulier, qui s'en sont donnés à cœur joie ces dernières semaines, L'Express, l'Ukraine doit vaincre, une série de témoignages, tous en même sens, montrant que c'est comme ça et que c'est la liberté, c'est tout le sort de l'Occident qui est en jeu, c'est le sort de toute l'Europe. Mais en même temps, avec un pays qui n'a pas les moyens de se battre, qui n'a pas de munitions, n'avons pas de moyens à donner. Alors maintenant, passons à ce que dit Emmanuel Macron. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Nous devons absolument, dans l'avion qui le ramenait de la réunion de Munich, nous devons absolument intensifier notre soutien et notre effort pour aider à la résistance du peuple et de l'armée ukrainienne et leur permettre de mener la contre-offensive qui seule permettra des négociations crédibles aux conditions choisies par l'Ukraine. Je trouve ça absolument scandaleux, notamment vis-à-vis des Ukrainiens. Car ça veut dire en clair, continuer à envoyer le peuple ukrainien à la boucherie, avec des armes plus ou moins désuètes que nous lui fournissons, jusqu'à que la Russie cède. Or on sait bien que pour la Russie, elle ne peut pas céder sur la Crimée, c'est une ligne rouge, et maintenant qu'elle occupe les oblasts, ou une partie des oblasts, les quatre oblasts de l'est de l'Ukraine, qu'elle considère comme territoire russe, elle ne pourra pas céder comme ça, face aux menaces d'Européens dépourvus d'armes et de munitions. Donc on est devant un affrontement direct entre l'OTAN, qui soutient Kiev, entre les États-Unis, qui sont la partie forte de l'OTAN, et la Russie. Donc c'est pour cela que nous sommes face à un conflit qui est un conflit... qui risque de mener à un embrasement général. Il faut bien le voir, parce que les propos irresponsables de notre président, ça vient depuis longtemps. Au sommet de l'APEC, de coopération économique pour l'Asie-Pacifique, les 18 et 19 novembre 2022, en Thaïlande, il s'exprime en anglais, et il décrit deux éléphants dans le monde, la Russie et la Chine, menaçant le monde, et la nécessité pour les autres animaux, c'est lui qui le dit de cette façon, et il dit tigres et singes, avec un sourire mi-narquois, mi-cynique, de s'unir pour parvenir à un single global order, c'est-à-dire un ordre unipolaire, ça veut dire l'OTAN global, hein, en clair. Donc voilà quelle est la position d'Emmanuel Macron. Il ne considère pas que depuis 1945, ce sont les États-Unis qui ont mené la plupart des guerres et que leur doctrine militaire n'exclut pas d'être les premiers à recourir à l'arme nucléaire, du moins dans ses versions tactiques. Donc voilà. Voilà où on s'en trouve pour les dirigeants occidentaux. Alors que notre décision, la décision officielle de la France, celle du président de la République, celle des armées, est de préparer une guerre à haute intensité. Et cela ne peut signifier qu'une guerre à haute intensité en Europe, l'extension de la guerre d'Ukraine. Alors que Notre ministère de la Défense lui-même évalue le déficit en munitions de l'armée de terre à plus de 3 milliards d'euros, que nos matériels ne sont pas entretenus et que nous avons pas les moyens, s'il y avait une guerre, nous défendre, les Allemands encore moins. Donc on est dans la responsabilité totale et une responsabilité qui nous porte à une fuite en avant qui devient extrêmement dangereuse pour nous-mêmes, mais pour l'humanité, parce que c'est un embrasement général, j'insiste encore, qui est le risque. Alors, il faut se demander à ce stade si on est seulement dans la matière noire de la tragédie. Eh bien non. Eh bien non. D'abord, il ne faut pas s'étonner que Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, se trouve à Moscou et va commencer demain, ce vendredi 26 février, donc après toutes ces déclarations et les interventions des dirigeants occidentaux, donc ce 26 février, à présenter un projet de paix. Alors, tout le monde en Occident fait la fine bouche. Mais je pense que tout pas en avant est à prendre. Et que là, il y a une chance, et qu'il faut la saisir, et que la France aurait un rôle essentiel à jouer de catalyseur, de médiateur, et je le répète toujours, et on est absent au débat. La France manque au monde. Et Emmanuel Macron, avec ses contorsions, est l'exemple même de cette incapacité de la France d'être là par rapport à cette crise de civilisation et à ce risque d'embrasement. Mais lui-même a dû affirmer « Je ne pense pas, comme certains, qu'il faut défaire totalement la Russie, il est bien gentil, l'attaquer sur son sol. Ses observateurs veulent avant tout écraser la Russie, pense aux pays de l'Est européen. Cela n'a jamais été la position de la France et cela ne le sera jamais. » Alors c'est un curieux en même temps. On participe à la politique de l'OTAN, on participe à l'Union européenne dans laquelle font partie ces pays de l'Est européen. Et on dit qu'on ne va pas écraser la Russie. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en réalité, on est soumis, on fait semblant de pas l'être. Alors, curieux, en même temps, c'est une forme curieuse en même temps. On ne s'en donne pas les moyens. Voilà. Alors, même Natacha Polony, dans Marianne, doit reconnaître, et je vais la citer parce que c'est intéressant, de la citer, « L'Union européenne est en train de disparaître économiquement, militairement et politiquement dans ce désastre. Elle est plus que jamais un satellite de ces États-Unis qui lui menait, avant l'agression russe, une guerre commerciale violente à coups de milliards de dollars, de sanctions contre ses entreprises, à coups d'intimidation autour des sanctions illégales décidées unilatéralement pour Washington contre de nombreux pays du globe. » Alors, que nous ne sommes pas dans ces conditions, que ces nombreux pays du globe basculent dans le camp de ceux qui ne veulent plus le dollar comme monnaie des marchés financiers, car ce n'est même plus la monnaie de la nation américaine, c'est la monnaie des marchés financiers. Donc ils ne veulent plus. Il y a un basculement du monde. Mais nous n'en sommes pas. Alors, dans ce basculement du monde, le risque est celui d'une guerre généralisée, d'une guerre nucléaire qui anéantirait la civilisation, et d'un monde qui évoluerait autrement, avec une autre domination, et nous serions amusés dans ce monde-là. Il faut donc que nous réagissions. Heureusement, il y a des réactions qui se produisent dans notre pays. D'abord, des généraux français. Je peux en mentionner certains, Henri Gourde, Dominique de Lavarde, des amiraux, des contre-amiraux, Debré, Gaucheran, et bien d'autres encore, dont le très courageux colonel Corvez. Ils comprennent que notre souveraineté nationale est en jeu, et ils sont favorables désormais à une politique du siège vide, à l'OTAN, et à sa dissolution, parce qu'ils ont bien compris que l'OTAN n'a plus lieu d'être, est devenue une organisation va-t-en-guerre. Elle n'est plus l'organisation qui nous menaçait de résister au pacte de Varsovie communiste. Elle est devenue une organisation va-t-en-guerre, s'étendant à l'échelle du monde, la Global NATO, et servant l'anglosphère, les intérêts anglo-américains. Sous les cinq yeux, comme ils disent, les Five Eyes, des services américains, anglais, néo-zélandais, canadiens et australiens. Il y a aussi l'enquête qui a été faite contre nous. Nous avons à peine réagi lorsqu'on a été trompé sur ce contrat sous-marin. Il y a surtout, et ce qui est le plus intéressant, je pense, aujourd'hui, l'attitude de plusieurs généraux allemands. Il y a d'abord Harold Kujat, qui a joué un rôle fondamental au sein de l'OTAN, qui s'élève contre la politique actuelle, comme le généraux français. Il y a Selbald Dohm. Il y a Manfred Graetz. Manfred Graetz dit très justement « Je me sens dans la situation de Heine ». Heine disait de son temps « Si je pense à l'Allemagne, la nuit, j'en perds le sommeil ». Je dois ajouter que moi-même, si je pense à la France la nuit, j'en perdrais le sommeil s'il n'y avait pas toute cette manifestation pour la paix et ce potentiel. Dans le réel tel qu'elle est, j'en perdrais le sommeil. Mais c'est l'espérance qui fait que je peux parvenir à m'endormir aujourd'hui. Alors, le plus intéressant, sans doute, celui qui étant le plus, qui va le plus loin dans sa citation, c'est, il y a deux choses, hein. C'est le général Selbald Dohm. Ce que dit Selbald Dohm, il nous dit que, voilà, il y a une situation où il ne faut pas oublier que l'Union soviétique et la Russie ont joué un rôle décisif dans la réunification de l'Allemagne et la Russie n'a pas maintenu ses troupes en Allemagne de l'Est, où elle était, alors que les États-Unis ont maintenu leurs troupes en Allemagne de l'Ouest. Alors, on voit bien qu'il y a deux attitudes différentes. Et finalement, nous dit ce général, on doit se souvenir que c'est les États-Unis et l'OTAN qui ont fomenté le coup d'État en Ukraine en 2014, chassé le président élu du pouvoir et armé militairement l'Ukraine pour qu'elle affronte la Russie, ce que confirment Hollande et Merkel à leur façon. Donc voilà une résistance qui s'ébauche dans ces milieux militaires où l'on sait que la guerre est une chose sérieuse. Contrairement à cette nouvelle civilisation de trentenaires, de quarantenaires civils qui n'ont de conception ou d'attachement qu'au réseau qui leur ont permis de réussir et pas à la réalité. Ils n'ont pas de vision. Ils ne voient pas le monde selon des principes. Ils le voient selon leur ambition personnelle. Ils n'ont pas l'amour du peuple. Alors voilà que des gens qui ont aussi l'amour du peuple aux États-Unis se manifestent. Le colonel McGregor, un expert de poids qui a commandé une partie des forces stratégiques américaines, dit aussi « il faut changer d'attitude dans cette affaire ». Le pape François, le Vatican, propose d'accueillir des négociations de paix sans condition. Nous le soutenons entièrement. Nous avons fait une pétition internationale pour le soutenir avec l'Institut Schiller. Parce qu'il se situe dans la tradition de Benoît XV, qui a mis tous ses efforts à aboutir à la paix en 1914-1918 et qui malheureusement n'a pas réussi. Ou de Jean XXIII, qui lui a réussi à servir d'intermédiaire entre Kennedy et Khrushchev au moment de la crise des missiles de Cuba. Donc le Vatican peut encore jouer ce rôle d'accueil pour la paix. Et c'est de ce point de vue, bien évidemment, que nous le soutenons, parce que nous pensons que c'est une chose qui est très essentielle aujourd'hui. Alors, l'autre chose, évidemment, qui porte notre espoir, ce sont les manifestations pour la paix dans le monde. Il y en a déjà eu à Los Angeles, à Mexico, à San Francisco, en Europe. Mais la plus intéressante, c'est celle qui a eu lieu aux États-Unis, auxquelles nos amis américains ont participé, et qui a réuni 2 à 3 000 personnes qui étaient là. Ça semble pas beaucoup, mais aux États-Unis, comme dirait quelqu'un dans le ventre de la bête, c'est vraiment pas mal que les gens aient le courage d'être là, des gens d'opinions différentes. Nous-mêmes, Diane Serre, qui a été notre candidate au Sénat américain, que certains d'entre vous connaissent, les libertariens, qui sont plutôt classés comme une droite libérale, et le Parti du Peuple, qui est dans la rage contre la machine de guerre, qui est plutôt considérée comme la gauche de Bernie Sanders. Donc tous ces gens se sont réunis, un peu comme au Conseil national de la Résistance, contre ce fascisme financier qui naît et se développe. Je dois dire qu'il y a aussi le week-end de mobilisation nationale et mondiale pour dire non à la guerre et un cessez-le-feu des solutions négociées pour une paix durable, qui est organisé par le mouvement de la paix, sur la base de l'appel international conjoint du mouvement de la paix et du Bureau international de la paix, avec plus de 300 organisations au niveau mondial qui ont participé, avec plus de 200 organisations françaises. La France compte déjà 50 pôles de rassemblement ce week-end sur tout le territoire, à Paris, à Nice, à Toulouse, à Grenoble, à Nantes, bien entendu à Marseille. Donc nous avons cela. Et nous avons des manifestations aussi à Bruxelles. Nous avons eu à Munich une manifestation dont on a très peu parlé, il y a une semaine. 10 000 personnes présentes à l'une manifestation, il y en a même eu deux, et 3 000 à l'autre. Donc 13 000 personnes en tout. C'est beaucoup pour l'Allemagne. En France, nous avons aussi la manifestation, après celle du mouvement de la paix le 25, le 26, celle organisée par les patriotes de Florian Philippot. Donc c'est intéressant parce que de partout, en sens différent, se manifestent ces initiatives. Il y a aussi des initiatives pour la paix en soutenant l'Ukraine jusqu'au bout qui se manifestent. Et on voit Boris Vallot, le socialiste, dire « il faut aller jusqu'au bout, il faut soutenir l'Ukraine jusqu'au bout ». Il faut dire que Vallot Belkacem, son épouse, est celle qui a confié l'éducation nationale à Microsoft. Donc je ne vois pas de rapport entre les deux, mais je vois une certaine forme d'idéologie commune qui se manifeste ainsi. Alors, plus encore, regardons la situation un peu dans les différents pays du monde. Au Royaume-Uni, appui inconditionnel à la guerre, mais manifestation pour la paix. Puis, un sondage du Conseil européen pour les relations internationales met en évidence des visions divergentes, c'est le langage diplomatique, des visions divergentes entre les opinions des pays occidentaux et celles des autres États. Ça veut dire tout le Sud, tous les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, dont certains sont des régimes autoritaires, d'autres des démocraties. L'Argentine est une démocratie, le Brésil est une démocratie, la Bolivie est une démocratie. Donc ce pays-là se manifeste et disent non, on ne veut pas rentrer dans ce jeu dans lequel les pays occidentaux essayent de nous entraîner. Alors, au sein même de nos pays, en Allemagne, on peut voir que, à l'est de l'Allemagne, plus des trois quarts des personnes interrogées sont favorables à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture de négociations de paix en Europe. En Italie, c'est dans le monde, hein, ils nous disent « Dans les rues des villes italiennes, rares sont les bâtiments qui arborent le drapeau ukrainien en signe de solidarité. » Rare. En revanche, sur le fronton des mairies, sur ceux des locaux syndicaux ou bien accrochés aux fenêtres des appartements, une bannière associée au pacifisme italien depuis la guerre froide fait son retour, le drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel, frappé du mot « pace », c'est-à-dire « la paix ». Et évidemment, avec sa lâcheté que j'avais déjà bien annoncée, Meloni est allée voir Zelensky à Kiev, où elle s'est fait traiter de tous les noms, parce qu'elle dit « Vous êtes allié à Silvio Berlusconi », a dit Vladimir Zelensky, et donc vous êtes dans un gouvernement dont les positions sont pour nous impossibles à admettre. Vous avez Berlusconi là-dedans, c'est pas possible. Alors Meloni n'a pu répondre à sa façon que, avec une timidité, que c'était comme ça, que c'était une alliance. Donc là, on voit la médiocrité de certains dirigeants. En Europe centrale, vous avez des opinions hétérogènes. Vous avez la Pologne qui est totalement va-t-en-guerre. Mais dans la République tchèque, une enquête de Médian, effectuée pour la radio publique en janvier, révèle que seulement 36% des sondés souhaitent voir augmenter l'aide militaire tchèque à l'Ukraine, 58% étant opposés à l'augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine. Et aux États-Unis même, il n'y avait que 7% des Américains qui estimaient que leur pays aidait trop l'Ukraine. en mars 2022. Aujourd'hui, ils sont maintenant près de 30%. Donc il y a une augmentation des protestations. On l'a vu également dans l'attitude que doit prendre Kevin McCarthy, qui est nouveau speaker de la Chambre républicaine, qui dit qu'il n'y aura plus de chèque en blanc pour l'Ukraine. C'est peut-être pour des raisons qui ne sont pas les meilleures, mais c'est une chose qui est dite et qui est sur le terrain. Donc il y a matière à espérance. Il y a matière à espérance, mais il faut voir que la crise en Ukraine, il faut s'élever par-delà la crise en Ukraine. Il y a une terrible crise alimentaire mondiale, exacerbée par cette guerre. L'alimentation est utilisée comme une véritable arme de guerre. Et nous avons des observateurs qui sont allés en Syrie et en Turquie. Le réanimateur Raphaël Pitti, cité dans Le Parisien du 23 février, qui nous dit « Les Nations Unies n'ont pas été à la hauteur. Les pays des Nations Unies ont mis longtemps à aider la Turquie et ont bloqué pendant longtemps l'aide qui pouvait être apportée à la Syrie. Les hommes et les femmes qui ont travaillé durant des jours dans les hôpitaux en Syrie, à main nue dans les décombres, sont épuisés et profondément en colère contre le monde occidental, car ils ont le sentiment d'avoir été abandonnés. » Eh bien, ils ont raison. Ils ont raison parce que les sanctions César américaines sont celles qui ont produit la crise alimentaire, humaine, en Syrie. Comme la politique américaine l'a produite au Yémen, comme la politique américaine l'a produite en Libye, comme nous l'avons aussi produit en suivant la politique américaine. Donc voilà le résultat. Voilà le résultat où un Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas été à la hauteur car il a été bloqué par la Grande-Bretagne et les États-Unis et notre silence. Et les Syriens ont fait face tout seuls à chercher des victimes sous les décombres avec leurs mains. Donc voilà où on est arrivé. Les sanctions César américaines contre la Syrie, dans ces conditions, sont devenues criminelles, il faut le dire. Alors, dans ce monde, il faut s'élever au-dessus de la question de la guerre en Ukraine. On ne pourra résoudre la guerre en Ukraine qu'en changeant l'orientation générale dans laquelle va la politique internationale depuis, je dirais, certainement depuis le 15 août 1971, la séparation de l'or et du dollar, et bien avant. Il faut surpasser la géopolitique qui a conduit aux deux guerres mondiales au XXe siècle. Il faut mettre en place une nouvelle architecture de sécurité et de développement, comme celle que nous défendons. Il faut aboutir à une situation de paix de Westphalie, avec le pardon des offenses faites aux uns et aux autres. L'avantage d'autrui, donner l'avantage à l'autre en espérant, mais sans espoir de retour, le donner parce que c'est nécessaire et c'est humain. Le donner en espérant que l'autre, évidemment, redonne notre avantage. Et enfin, la remise des dettes, comme on disait à l'époque, le moratoire ou l'annulation des dettes qui ont été illégitimes dans des conditions de guerre en Westphalie et maintenant en conditions de guerre économique imposées par qui ? Par nous. Alors, nous devons débattre les principes sur lesquels doit se bâtir le futur de l'humanité. En croyant que l'homme est capable, en sachant que l'homme est capable, en se battant pour que l'homme soit capable de faire le bien. Car le mal n'apparaît que lorsqu'on cesse de faire le bien. Et c'est la grande leçon que nous devons tirer de cette situation actuelle pour pouvoir sortir de ce vers quoi elle nous mène et vers le terrible embrasement qui nous menace. Puisque j'ai commencé par parler de poésie, je veux terminer par la poésie aussi. C'est Victor Hugo, notre grand poète, s'exprimant en 1849 dans le Congrès pour la paix. Ce que dit Victor Hugo, avec sa façon, au terme de l'époque, c'est « La loi du monde n'est pas et ne peut être distincte de la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu, ce n'est pas la guerre, c'est la paix. » Il faut garder bien cela présent à l'esprit, en suivant... Je dirais aujourd'hui, c'est l'humanité, c'est le destin de l'humanité. Quelles que soient les religions, quelles que soient les croyances, c'est la paix. Et c'est la paix parce que la paix permet, encore une fois, un débat politique sur le bien commun, un débat politique sur les générations futures, et elle permet de servir l'un et l'autre. Alors, je veux finir par ce que disait Victor Hugo, sous les applaudissements, alors, et qui vaut autant pour aujourd'hui, « Messieurs, ne désespérons pas pourtant, il n'y avait que des messieurs à l'époque, messieurs, ne désespérons pas pourtant, au contraire, espérons plus que jamais. » Tous, quel que soit notre genre, humain ou autre, nous ne devons pas désespérer et nous battre pour la paix, et encore nous battre pour la paix.